Bonjour, c'est José, Once You're in Hand. Alors, cette vidéo n'est pas un satsang. C'est un texte que j'ai écrit après y avoir réfléchi, qui m'a demandé du travail, sans doute, parfois beaucoup, hein, même si les textes sont souvent très courts. Ça n'empêche pas de faire un travail de recherche, de vérification, d'information, etc. Ce texte, son titre, c'est L'universel point commun. Alors écoutez, ah oui, voilà. Tout va bien, la caméra tourne, le micro est en fonctionnement, il me reste à mettre la musique. Stan Getz. Voilà, c'est neutre. Alors. L'universel point commun. Les scientifiques, pour illustrer les origines de toutes les espèces vivantes, se servent d'un schéma qui ressemble à un buisson sphérique. Vous savez, comme ces buissons qui sont emportés dans le désert, qui dans les feuilles, dans les films, les westerns ou d'autres, les films américains, on voit des gros buissons. Qui roule comme ça. Il roule, il roule, il roule, et en fait, il roule jusqu'à ce qu'ils rencontrent un point d'eau, et là, ils peuvent arrêter de rouler pour disperser leurs graines dans un endroit où il y a de l'eau. Eh bien, ce buisson qui représente l'arbre généalogique de toutes les espèces vivantes, eh bien, ressemble à une sphère, à une boule de branches, de petites branches. Au centre du buisson, il y a la première cellule vivante née dans la soupe, entre guillemets, de l'océan premier, avec les éléments chimiques, minéraux de l'activité volcanique souterraine. Et au fur et à mesure des évolutions, les troncs se séparent en branches, les branches en branches plus petites, etc. Alors je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça y est. Ce sont des arbres généalogiques avec tous les différents embranchements selon les espèces. Il y a le tronc des vertébrés, puis de ce tronc partent les poissons, les mammifères, les batraciens, les reptiles, les ovipares, puis les grands singes qui forment un autre embranchement, puis les hominidés jusqu'à nous, les Homo sapiens sapiens. Au centre de cette sphère, il y a le point commun universel de la vie. Difficile de lui donner un nom à part point commun universel ou dénominateur commun. Certains le nomment vertu du Tao, d'autres verbe, parole, d'autres saint nom, Dieu. L'apôtre Jean, dans son chapitre premier, dans le chapitre premier de son évangile, a écrit « Au commencement était le Verbe, ou au commencement était la parole, et la parole était en Dieu, et la parole était Dieu. » Ou « Au commencement était le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Ce point commun à tout est au centre de cette sphère des origines. Alors, ce n'est pas du tout ce que disent les scientifiques. Hein. Les scientifiques ne parlent pas ce centre, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Ils ne disent pas c'est le Verbe, c'est la parole de Dieu, hein, bien sûr, évidemment. Ce point commun à toute chose est au centre de cette sphère des origines, mais il est aussi au centre de chaque être vivant. Donc en votre centre à vous aussi, puisque vous faites partie... des êtres vivants. Ce centre est un lieu, alors vous voyez les guillemets que je fais avec mes doigts comme les parisiens, hein. Bon, je suis parisien, ça excuse. Ce centre est un lieu de calme, de repos, de conscience. Quand vous êtes à la surface des choses, dans la confusion, vous vous créez vos propres problèmes. Vous avez pourtant parfois, c'est loin d'être le cas de tout le monde, hein, rassurez-vous, vous avez parfois pourtant tout pour être heureux dans notre pays moderne et riche. Le malheur, quand il n'est pas imposé par les circonstances, vient souvent de l'aveuglement, de la vanité et des désirs. Et de la peur aussi, hein. Vous avez tout pour être heureux et puis vous avez peur qu'en 2100, la Terre soit plus habitable. Et vous avez 50 ans. Cherchez l'erreur. En réfléchissant au problème, on se rend compte, remontant l'arborescence des causalités, des causes de nos problèmes, comme on remonte celui des origines de la vie, ou quand on fait une recherche de panne mécanique, on remonte les causes des pannes, de la plus simple à la plus compliquée, que les problèmes ont souvent le même point de départ, des problèmes complètement différents, ils ont souvent le même point de départ, c'est-à-dire le manque de conscience profonde. Alors pas le manque de conscience, parce que le manque de conscience, tout le monde a une conscience, hein. Je rajoute profonde, la vanité, les désirs. Alors les désirs, hein, il ne faut pas les confondre avec les besoins. La solution, eh bien, c'est d'approfondir sa conscience. Puisqu'on manque de conscience profonde, en approfondissant sa conscience, on élimine cette cause qui est très souvent la cause de beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos problèmes. De réduire sa vanité et ses désirs. Alors, c'est là où je dis, entre parenthèses, il ne faut pas confondre un désir et un besoin. Par exemple, avoir faim est un besoin. Le besoin de manger. Vouloir du caviar est un désir. C'est pas illégitime si vous avez les moyens. Hein. Ça fait vivre les gens qui élèvent des esturgeons et les marchands de caviar. Et il n'y a pas de honte. Hein. Si vous êtes riche, que vous pouvez vous payer une boîte de caviar, payez-la à vous. Hein. Je ne critique pas. Mais c'est un désir. Ce n'est pas un besoin. Le caviar n'est pas un besoin. On peut manger des œufs de limpe. Ça vous donnera les mêmes éléments minéraux. Hein. Avant de vouloir changer le monde et améliorer autrui, cherchez à vous améliorer. Si chacun le faisait, si chacun cherchait à s'améliorer, eh bien la société humaine s'améliorerait. Parce que quoi? De quoi est composée une société? Des gens qui la composent. C'est une tautologie, mais c'est vrai. On va pas changer toute la société, on va changer chaque personne. Et plus il y aura de personnes qui auront changé dans le bon sens, vers plus d'humanité bien-disante, vers plus de profondeur de conscience, vers plus de respect de la vie, eh bien le monde s'améliorera. La solution à tous les problèmes est contenue dans la conscience profonde, dans le fait d'avoir une conscience profonde. Si vous ne vous en servez pas de votre conscience profonde, elle ne vous sert à rien. C'est comme celui-là qui meurt de soif près d'une source parce qu'il ne veut pas se baisser pour boire. Il existe des moyens de retrouver une pleine conscience et de diminuer la vanité, ce qui est une autre histoire. Mais avant de chercher ces moyens-là, il est besoin que vous ayez fait ce constat de point que l'approfondissement de votre conscience est nécessaire et que vous avez trop de vanité et peut-être même trop de désir. Pour faire ça, pour approfondir sa conscience, il est conseillé d'aller au centre de soi. Ceux qui savent comment faire connaissent un état de paix intérieure. Mais cet état ne dure pas tout le temps. Il n'y a pas équanimité. Et quoi? Qu'est-ce que c'est que cette équanimité dont tous les férus de spiritualité, surtout les bouddhistes, nous parlent? Un concept. L'équanimité ne se peut pas tout le temps. Il y a des choses dans la vie qui mérite qu'à cause d'elle, on se révolte, on s'énerve, on rit, on pleure. C'est la vie. Et les sentiments, les émotions ne sont pas là par hasard. Nous sommes humains. viser à un état supra-humain de mystique sans saute d'humeur est une vanité de l'ego spirituel, un leurre destiné à nous donner un objectif impossible à atteindre, une illusion de spiritualité. Aucune illusion n'est bonne, même pleine de charme et correspondant parfaitement à nos concepts. Quand on utilise nos concepts comme aune, comme référence pour juger de la pertinence des choses venues d'autres que de nous, on se trompe. Quel que soit l'objet que l'on brûle, ah oui, alors ça, faut être un petit peu moins mystique, c'est un peu plus physique ça, c'est une expérience que j'ai beaucoup faite quand j'étais enfant. Quel que soit l'objet que l'on brûle, on se retrouve avec de la cendre. Eh bien, les questions sont ainsi. Quelles qu'elles soient, ces questions, on se retrouve toujours avec la même réponse. Retrouve ton centre. Retrouve sa paix. Souvent, vous vous trouvez confronté à une problématique qui vous déborde. Prenez alors un temps pour fermer les yeux et respirer calmement. Quand vous ouvrirez les yeux, vous verrez que cette problématique aura perdu de son importance. Vous connaissez ce dicton qui conseille de tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Apprenez celui-ci. Deux points, ouvrez les guillemets. Prenez toujours un temps de concentration sur le souffle avant d'agir. Fermez les guillemets. Choisissez la joie, la simplicité et l'humilité. 11 minutes 56, c'est-à-dire 12 minutes. Vous voyez, les textes sont toujours beaucoup, beaucoup plus courts que les satsangs. J'en ai fini avec vous. Je ne vous embrasse pas car on ne se connaît pas. Mais je vous assure de toute ma sympathie et de toute ma solidarité humaine. Et plus simplement, au revoir et à plus tard. Je vais laisser cette phrase musicale de sax. Bon, elle n'en finit pas. Au revoir.